Vous êtes avec SBS French.
Les principales actualités de ce mardi 1er février 2022. Rentrée politique pour Scott Morrison qui a commencé à s'adresser il y a quelques minutes au National Press Club. Il annonce notamment un bonus de $800 pour l'ensemble du personnel travaillant dans les maisons de retraite. Au Royaume-Uni, le Partygate continue d'agiter le Parlement. Le Premier ministre britannique Boris Johnson paraît de plus en plus en difficulté. Et puis, on ira également au Mali, où l'ambassadeur de France a 72 heures pour quitter le pays. Les autorités maliennes de transition ont annoncé son expulsion hier à la télévision nationale. C'est donc la fin de la trêve estivale en Australie pour le Premier ministre Scott Morrison qui en ce moment même est en train de s'adresser au National Press Club. L'occasion pour le Premier ministre sortant aussi de faire discrètement son entrée en campagne pour la prochaine élection fédérale qui devrait avoir lieu au mois de mai. Il vient d'annoncer par exemple un plan de financement de $2 milliards pour la recherche universitaire. L'idée étant de favoriser les passerelles entre l'univers de la recherche et celui de l'entreprise. Scott Morrison doit également annoncer le versement d'un bonus de $800 pour l'ensemble du personnel des maisons de retraite. Une mesure critiquée par les travaillistes qui estiment que plutôt qu'un cadeau ponctuel et opportunément annoncé moins de 3 mois avant les prochaines élections, il faudrait plutôt, pour retenir les personnes qui travaillent dans ce secteur d'activité, relever les salaires de base. C'est ce qu'a expliqué Bill Shorten au Nine Network.
It's a sugar hit. The fact of the matter is that aged care workers, the base rate's around $22 an hour before tax. I mean, you can earn more at Bunnings, and I'm happy for the Bunnings workers, but we've got to treat the aged care workers better. If Mr. Morrison was fed income, he'd turn up at the Fair Work Commission, the independent umpire of wages, and support increasing the base rate per hour.
Le ministre de la Santé a, lui, pris la parole aujourd'hui pour minimiser les inquiétudes concernant l'accès des résidents de ces maisons de retraite aux doses de rappel du vaccin contre le coronavirus. Greg Hunt a affirmé au contraire que la campagne de rappel vaccinal de cette catégorie de la population particulièrement à risque avait 6 semaines d'avance. Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue dans la matinée, il a assuré que 91% des résidents des maisons de retraite avaient reçu au moins 2 doses de vaccin, soit un tout petit peu moins que pour l'ensemble de la population qui, elle, doublement vaccinée, à plus de 95%. Greg Hunt, enfin, a déclaré que la majorité de ces personnes âgées décédées ces derniers mois après avoir contracté le Covid étaient déjà très gravement malades avant de contracter le virus.
Those that were in the absolute latest days of their lives who may have contracted COVID, the definition is that they have passed with COVID and they are absolutely rightly counted as a national loss. But approximately 60% of those that have passed were in palliative care, and approximately 25% of those that have passed were either unvaccinated or partially vaccinated.
Sur un tout autre sujet, un virage à 180 degrés aujourd'hui de la part des travaillistes qui annoncent aujourd'hui qu'ils soutiendront la construction d'une nouvelle centrale électrique au gaz dans la vallée de Hunter, en Nouvelle-Galles du Sud. Une décision impulsée il y a quelques mois par Scott Morrison et qui avait été vivement critiquée, de nombreuses voix s'élevant contre la construction d'une énième centrale fonctionnant aux énergies fossiles. La position prise aujourd'hui par les travaillistes a de quoi surprendre, puisque ceux-ci tente de se présenter aux yeux des électeurs comme plus engagé à lutter contre le changement climatique que la coalition. Mais l'annonce qui a été faite aujourd'hui est tempérée par le fait que ce soutien à ce projet est conditionné au fait que cette centrale devra fonctionner entièrement grâce à de l'hydrogène vert, excusez-moi, d'ici à 2030. L'hydrogène vert, c'est une énergie propre pour laquelle le leader des travaillistes, Anthony Albanese, a indiqué aujourd'hui en marge d'un déplacement à Kurri-Kurri, où cette fameuse centrale doit être construite, pour une énergie donc pour laquelle il nourrit de grandes ambitions.
I see the Hunter as potentially a green hydrogen powerhouse for Australia and the world. Not just producing it here, but exporting it internationally. We need to take advantage of the opportunities. The problem with this government is it's scared of the present, but terrified of the future. They never plan for the future.
Ces jours de rentrée des classes, ce mardi en Nouvelle-Galles du Sud, comme d'ailleurs dans d'autres États australiens, et cette reprise, un mois après l'arrivée en Australie de la vague Omicron, elle ne se fera pas sans quelques dysfonctionnements, c'est ce qu'a concédé aujourd'hui Dominique Perrottet, le dirigeant de Nouvelle-Galles du Sud. Il faisait notamment référence à l'obligation pour les élèves et le personnel scolaire de faire 2 tests antigéniques par semaine au cours du prochain mois pour se rendre à l'école. Une exigence que Dominique Perrottet admet être pénible, mais qu'il juge indispensable pour permettre le retour en bon ordre des enfants à l'école.
We set out to ensure that we had kids and teachers back at school in a safe learning environment. The rapid antigen test, which as a parent I know are incredibly painful to administer that to our children, but it's important. But ultimately, it's not just our parents and teachers and everyone right across the state who's made efforts and sacrifices, it's our kids too.
Pour continuer sur la question des tests antigéniques, dont on sait qu'ils ont été extrêmement difficiles à trouver ces dernières semaines, la Commission australienne de la concurrence a annoncé qu'elle allait porter plainte contre plusieurs pharmaciens et distributeurs qui ont gonflé les prix de ces tests à un moment où ils étaient donc extrêmement difficiles à trouver. Le gendarme de la consommation en Australie a reçu en moins d'un mois plus de 4000 plaintes de la part de clients se plaignant des prix scandaleux pratiqués par certaines enseignes. Le président de l'ACCC, Rod Sims, a précisé que certains distributeurs pourraient être traînés devant les tribunaux.
We're referring matters to the federal police. They can arrest people if they find people charging at more than a 20% markup when they buy retail and on sell. If they sell it for more than 20%, that's illegal. They can go to jail.
La ville de Hobart, en Tasmanie, se voit comme une terre d'accueil pour les réfugiés. Le conseil municipal de la capitale de Tasmanie a en tout cas voté hier une délibération indiquant qu'elle se portait volontaire pour accueillir les réfugiés qui sont détenus dans un hôtel de Melbourne où tout récemment ils ont eu pour compagnon le joueur de tennis Novak Djokovic. C'est en tout cas le sens de la délibération qui a été prise hier. On sait qu'à Melbourne, dans cet hôtel, se trouvent 30 hommes qui sont retenus pour certains depuis 9 ans et sans pourtant avoir commis le moindre crime, si ce n'est celui d'avoir tenté de rejoindre l'Australie en bateau pour y demander asile. Le maire de Hobart, à la suite de ce vote, a indiqué qu'il comptait écrire une lettre au ministre de l'Immigration, Alex Hawke, pour lui demander la libération de ces réfugiés, mais également donc lui proposer de les accueillir dans sa ville à Hobart. À Londres, les suites du Partygate, ce scandale qui ne cesse d'éclabousser le Premier ministre Boris Johnson. Boris Johnson, accusé d'avoir organisé des fêtes au 10 Downing Street en pleine période de confinement en 2020 et 2021. Hier, la commission indépendante qui enquête sur cette affaire a rendu ses conclusions et relevé notamment des erreurs de leadership et de jugement, mettant directement en cause Boris Johnson et les membres de son cabinet. Le Premier ministre britannique a lui fait face aux députés hier devant qui il a de nouveau présenté ses excuses. Il a en revanche exclu encore une fois de démissionner.
Firstly, I want to say sorry. And I'm sorry.
Tout d'abord, je veux demander pardon. Pardon pour nos erreurs et aussi pour la façon dont tout cela a été géré. Il ne sert à rien de dire que les règles ont été respectées à tel ou tel moment. Il ne sert à rien de dire que les gens à cette époque travaillaient dur. Cette pandémie a été éprouvante pour tout le monde. Nous avons demandé à nos concitoyens de consentir à d'énormes sacrifices, de ne pas aller voir leurs proches, de ne pas leur rendre visite avant qu'ils meurent. Et je comprends la colère que ressentent les gens.
And I understand the anger that people feel.
Dans la Chambre des communes, les critiques ont fusé de toutes parts en direction du Premier ministre, même au sein de sa propre formation politique, les conservateurs. Le leader des travaillistes britanniques, Keir Starmer, a lui aussi été particulièrement sévère à l'égard de Boris Johnson. On l'écoute.
Notre histoire nationale face au Covid est celle d'un peuple qui a su se dresser face à l'épreuve. Mais cette histoire sera pour toujours salie par le comportement du Premier ministre conservateur. En violant régulièrement les règles qu'il avait lui-même fixées, le Premier ministre nous a tous pris pour des idiots. Il a méprisé les sacrifices consentis par la nation et il s'est montré indigne de sa fonction.
Voilà, des extraits sonores des débats d'hier à Londres, traduits par nos confrères de RFI. Direction maintenant le Canada, où le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé avoir été testé positif au Covid-19, une infection qui intervient alors que le Canada fait actuellement face à une envolée des contaminations au variant Omicron, mais aussi dans le même temps à une vague de manifestations d'opposants à la vaccination obligatoire, mais aussi aux restrictions mises en place dans certaines villes du pays. Pour ce qui est de Justin Trudeau, il a indiqué qu'il se sentait bien et qu'il allait continuer à travailler tout en étant isolé. On l'écoute.
This virus affects us all. Two of my own children have now contracted it, and this morning I learned I tested positive for COVID-19 as well. I feel well and have no symptoms. Of course, I'll be working remotely this week and will keep following public health guidelines. But I want to take this opportunity to remind Canadians to please get vaccinated.
L'ambassadeur de France au Mali a 3 jours pour quitter le pays. Une annonce faite par les autorités de transition au pouvoir à Bamako hier à la télévision nationale. Une décision qui fait suite, je cite, aux propos outrageux tenus par le ministre français des Affaires étrangères. Jean-Yves Le Drian a effectivement récemment qualifié ces mêmes autorités de transition malienne d'illégitimes. C'est le dernier épisode d'une escalade des tensions entre le Mali et la France. La France qui est engagée militairement dans ce pays depuis 2014. On retrouve David Bachet pour RFI.
L'incompréhension et l'animosité qu'ont en partage les autorités maliennes et françaises n'étaient jamais allées si loin. Mais le pic a-t-il été atteint ? Bamako souhaite maintenir le dialogue et poursuivre la coopération avec l'ensemble de ses partenaires internationaux, y compris la France. Une invitation difficilement conciliable avec la manière forte qui a été choisie et qui a surpris bien des observateurs, y compris parmi les fins connaisseurs de la politique malienne. De son côté, Paris réitère son engagement en faveur de la stabilisation et du développement du Sahel, mais sans mentionner nommément le Mali. Depuis l'expulsion du contingent danois de la force Takuba la semaine dernière, la quinzaine de pays européens qui y contribuent ont initié une réflexion sur l'avenir de cette force articulée autour de Barkhane. Barkhane dont la présence sur le territoire malien est de plus en plus contestée dans la rue. Bamako a d'ailleurs sollicité une série d'amendements aux accords militaires actuels. Paris n'a pas encore répondu. Les autorités maliennes de transition, qui ont également engagé un bras de fer avec la CDAO, semblent déterminés à changer leurs relations avec leurs partenaires traditionnels, quitte à risquer l'isolement, en rappelant que d'autres puissances sont disponibles, la Russie, mais pas seulement, et tout en brandissant l'étendard de la souveraineté nationale.
À l'image de l'Australie, des États-Unis ou du Royaume-Uni, la Suède a également choisi d'interdire à Huawei l'accès à son marché de la 5G. Le géant chinois des télécommunications a répliqué en annonçant qu'il allait poursuivre en justice le pays scandinave. Pays scandinave qui assure pour sa part qu'il ne s'agit pas là de racisme anti-chinois, mais simplement d'une mesure visant à garantir la souveraineté de l'État suédois. Pour RFI, les explications de Myriam Berber.
Huawei entame une procédure d'arbitrage contre les autorités suédoises devant le CIRDI, le Centre international pour le règlement des différends liés aux investissements. Selon le géant chinois, la décision de la Suède de l'exclure du déploiement de la 5G porte atteinte à ses activités économiques. Huawei pourrait réclamer plus de 5 milliards de couronnes suédoises, soit près de 500 millions d'euros, un montant qui pourrait encore augmenter. Pour la Suède, ce n'est pas du Huawei bashing ni du racisme anti-chinois, mais c'est une question de souveraineté. Huawei est accusé régulièrement d'espionnage pour Pékin. Le risque n'est pas le même avec des équipementiers européens. La mesure va plomber les relations entre les deux pays. Aujourd'hui, le groupe suédois de télécom Ericsson, qui a 10% de son chiffre d'affaires en Chine, redoute des représailles de Pékin.
Aujourd'hui, c'est jour de fête pour des millions de personnes à travers le monde à l'occasion du nouvel an lunaire et du début de l'année du tigre. C'est paradoxalement en Chine que les célébrations seront sans doute les plus sobres cette année, et ce pour la troisième année de suite en raison de la pandémie de coronavirus. Néanmoins, les autorités chinoises prévoient que plus d'un milliard de voyages à travers le pays vont être accomplis durant cette période de fête, durant laquelle traditionnellement les Chinois retournent dans leur ville, leur village natal, pour passer du temps en famille. Et puis, cette période de fête, cette année, elle coïncide aussi avec l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. Alors, qui dit nouvel an dit aussi nouveaux vœux pour l'année à venir en Chine. Beaucoup espèrent que cette année du tigre sera aussi celle de la fin de la pandémie. C'est ce que nous explique Chen Lianchan, professeur à l'université de Pékin et auteur du livre « Mythes et légendes chinoises ».
In the eyes of the Chinese, the tiger is a protection against evil spirits, and it can defeat demons and ghosts of all kinds. And Chinese believe that the plague is one kind of evil spirit. Based on the symbolic meanings, people will feel supported in their minds and hope the plague of the coronavirus can be wiped out in the year of the tiger.
Voilà, on entendait déjà quelques pétards visiblement durant l'interview pour fêter ce nouvel an lunaire, à propos duquel je tiens à vous rappeler aussi que sur notre site internet SBS French, vous trouverez une liste complète des événements festifs prévus dans toute l'Australie autour du nouvel an lunaire. Allez, on jette maintenant un coup d'œil rapide à la météo du jour en Australie. 32 degrés et grand soleil à Perth, 24 degrés à Adélaïde, 24 également à Melbourne. Quelques averses prévues aujourd'hui à Canberra, où le thermomètre va afficher 30 degrés aujourd'hui. 31 à Sydney, où pour l'instant il fait très beau, mais on attend de la pluie plus tard dans la journée. 35 et quelques nuages à Brisbane. Et enfin, 31 degrés à Darwin, où la pluie pourrait céder la place en fin de journée à l'orage.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.